cette grandeur, cette puissance, qui suis-je? Alors, Jésus va dire à Pierre et avec quelques autres, bien, venez près de moi. Et dans Marc, donc, c'est un moment pour être près de celui qui est si grand et pour écouter celui qui est si grand mais qui est tout proche maintenant, comme celui qui va enseigner, comme un grand frère. On n'ose pas parler comme ça, mais c'est, voilà, il est là pour enseigner, pour parler, pour dire qui il est vraiment. Et alors, l'apprentissage justement de Pierre, c'est de découvrir la grandeur du Seigneur Jésus, ce qui va être notre étude maintenant, dans les versets suivants. Mais d'un côté, écouter, et puis d'un côté, apprendre en découvrant dans notre vie de tous les jours les interventions du Seigneur, les interventions de Dieu. Donc il y a plusieurs manières d'apprendre. Peut-être intéressant de voir cela. Écoutez, donc pour nous, on a un livre qui est plein de l'enseignement divin, c'est la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, donc des moments d'écoute de la parole de Dieu, pour apprendre à le connaître, connaître le Seigneur, connaître notre Dieu. Et puis, il y a la vie, on n'est pas seulement là pour être des littéraires qui écoutent un message, mais aussi dans la pratique quotidienne, la découverte de notre Seigneur. Et c'est vrai que Pierre va le découvrir dans la vie de tous les jours. On a parlé de la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Bon, il n'y avait pas les antibiotiques, hein, il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui. Très grosse fièvre, et on sait bien qu'une très grosse fièvre peut amener la mort, donc c'est le drame. La mort, c'est toujours un drame pour l'humain. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et puis, il va y avoir des difficultés, hein, dans la vie professionnelle, même, on peut dire, dans la vie, en tout cas, de l'habitude de Pierre. Il est sur un bateau, même si ce n'est pas pendant qu'il pêche, mais c'est son milieu habituel. Et voilà quelque chose qui est très fort, difficile. Le Seigneur va intervenir. Et puis, il va y avoir des moments où, encore la mort. Oui, la mort est là. Alors, désemparé devant la mort, le Seigneur est là. Et Pierre va apprendre, et puis dans les relations, dans le pays où nous vivons, comment se comporter avec les autorités, comment vivre les lois humaines. Et le Seigneur va être là aussi pour montrer comment. Alors apprendre, donc à découvrir, eh bien, que le Seigneur Dieu est puissant, et peut-être que c'est là où la foi est engagée. Voilà, qu'est-ce que la foi? Et on va trouver un petit peu cela en rapport avec la puissance du Seigneur.
Une pensée transversale justement dans au moins trois de nos passages qui sont maintenant et qui se relient aussi à Luc 5. On a dit tout à l'heure qu'il avait tendance à parler vite. Puis que dans Jean 1, justement, il s'est tu. Une des applications possibles de ce qu'on avait dit sur « Maître, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien pris, mais à ta parole », c'est aussi un peu toujours sa façon de faire une remarque. Pierre, il fait facilement des remarques et il parle facilement un peu vite. Alors on l'a aussi dans Luc 8, un des versets qu'on n'a pas lu, en chemin avec... en chemin vers chez Jaïrus, j'avais lu dans un autre évangile que quelqu'un, un des disciples, lui dit « Mais enfin Seigneur, tout le monde te presse. » Et en préparant ces réunions, je m'étais dit « Oh, ça c'est sûrement du Pierre. » Et en fait, effectivement, c'est du Pierre. C'est du Pierre, et c'est Luc 8 qui nous le dit. Hein, Jésus dit « Qui est-ce qui m'a touché ?» Verset 45, Pierre lui dit « Mais maître, les foules te serrent et te pressent, et tu dis « Qu'est-ce qui m'a touché ?» Il a cette façon un peu de parler vite. Alors on le retrouvera aussi dans le tribut qu'on regardera tout à l'heure, mais cette façon, les 10 drachmes, hein, Matthieu 17, ton maître paye l'impôt. Ah, oui, bien sûr qu'il paye l'impôt, c'est évident, il fait toujours tout très bien. Alors il paye. Cette façon un peu rapide de parler. Hein, alors, et puis on le verra aussi plus tard sur la montagne, la transfiguration. Il parle toujours un peu vite parce qu'il ne savait que dire. Alors quand on ne sait pas que dire, il vaut mieux se taire.
Nous avons Marc 5, là, c'est la remarque que Pierre a fait. Maître, nous avons péché toute la nuit, mais sur ta parole. Donc, c'est un acte de foi. C'est très important, c'est un acte de foi. Le maître, tel que nous le trouvons ici, avait de l'autorité sur lui. Pierre était fatigué, il a péché toute la nuit. Mais il s'est quand même soumis à ce que le Seigneur lui a demandé. Mène ta barque. Il s'est soumis. Ce que nous trouvons ici, c'est un acte de foi. Et cet acte de foi l'introduit dans ce que nous voyons après, la révélation de la grandeur du Seigneur. Juste dire une chose par rapport à l'attitude de Pierre que nous verrons, et je le dis pour les jeunes, mais pour nous tous, c'est très important. L'une des choses qui, d'une certaine façon, jouera des tours à Pierre, c'est que c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son maître. Profondément attaché à son maître. Et ça, c'est l'une des qualités qu'il nous faut retenir. Mon fils, donne-moi ton cœur, pouvait dire le livre des Proverbes. Et le cœur de Pierre était à son maître. Et en aucune manière, ce caractère n'a trouvé de défaillance chez lui, même si, selon la chair, on le fera tomber dans des situations difficiles, en aucune manière, de telle sorte que on a le sentiment, dans beaucoup de remarques qu'il fait, comme s'il voulait protéger son maître, comme s'il était plus fort que son maître. Il faut qu'il apprenne à le connaître d'abord, et alors il aura la place qui convient.
On peut dire également que s'il a fallu la foi chez Pierre, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'il y avait une émulation chez ses disciples qui étaient là? Nous avons vu deux barques. Nous avons vu le Seigneur qui rentre dans l'une des deux. Et la deuxième, on ne sait pas si c'était celle des associés de Simon, puisqu'il est parlé de Jacques et de Jean qui étaient associés. Et cette deuxième barque, eh bien, elle va suivre la première. Elle suit. Et est-ce que c'est parce que le Seigneur Jésus avait déjà travaillé dans le cœur? On ne peut pas le dire. Simplement, c'était le désir d'être là, de suivre, de voir. Peut-être que c'était la curiosité. Nous ne savons pas. Il y avait certainement aussi Pierre qui a vu le travail du Seigneur, qui a vu ce miracle. Pierre fait signe, un petit coup de main à la deuxième barque pour venir arracher le filet de l'eau. Et nous voyons ensuite, avec cette émulation, nous voyons au verset 11, « Ayant mené les nacelles à terre ». Alors là, maintenant, les nacelles, les deux s'en vont, les deux repartent à terre, et là, ils quittèrent tout et le suivirent. Voilà un travail qui est magnifique de voir cette émulation, cet encouragement que les deux, les occupants des deux barques, ont pu réaliser.
À propos de la spontanéité de Pierre, je trouve que c'est assez formidable de voir Pierre appeler le Seigneur maître, donc celui qui est au-dessus de tout, il lui reconnaît ce qu'il est, et puis il prend l'initiative quand même, Pierre. Et souvent dans ma vie, dans notre vie, est-ce que c'est pas ce qu'on fait? Si on me pose la question, à chacun d'entre nous qui connaissons le Seigneur, on va dire c'est le Seigneur, il est le maître. Mais dans ma vie, est-ce que je ne prends pas souvent l'initiative sans consulter le maître? Il y a encore une autre chose qui est assez... C'est bien plus tard, quand il va aller, le jour où le Seigneur veut l'envoyer voir Corneille. Il y a cette vision et la voix qui lui dit « Tue et mange ». Première parole de Pierre, « Non, Seigneur ». Mais c'est aberrant. Il l'appelle Seigneur, donc tu as l'autorité, et il lui dit « Non ». Mais est-ce que dans ma vie, c'est pas souvent comme ça?
Le contexte de la marche sur les eaux et de la tempête est divers. On a eu la multiplication des pains juste avant. Et on peut voir au moins les choses sous deux angles. Il y a un premier angle qui est de dire, les disciples avaient dit à leur Seigneur, « Seigneur, renvoie la foule afin qu'ils s'en aillent. » Non, vous leur donnez à manger. Renvoie la foule afin qu'il s'en aille. Et bien finalement, c'est le Seigneur qui va le renvoyer, il va mettre ses disciples dans la nacelle, et c'est lui qui va s'occuper de la foule. Notre pensée, c'est que, en fait, la foule voulait le faire roi. Alors d'une certaine manière, le Seigneur protège ses disciples en les mettant dans la nacelle. En les mettant dans la tempête, au fond, il les protège de quelque chose de plus difficile à vivre, qui aurait été une foule qui veut faire le Seigneur roi, et eux qui seraient peut-être volontiers partis dans cette démarche. Et au fond, il va les protéger en les mettant dans cette barque, et c'est pourtant la tempête. Alors on vit des fois des tempêtes, n'oublions pas que c'est le Seigneur qui nous y a mis, et parfois pour la bonne cause.
Qu'il est intéressant aussi de souligner dans la relation entre Pierre et le Seigneur, c'est que le Seigneur se sert de tout. Et notamment, Pierre va être impressionné par deux pêches miraculeuses. Le Seigneur se sert des animaux, des bancs de poissons. Le Seigneur va utiliser un autre poisson pour payer l'impôt au temple. Encore un animal. Le Seigneur va utiliser un coq qui chantera au petit matin pour rappeler à Pierre son triple reniement, les petites choses de la vie. C'est vrai que le Seigneur Jésus est notre maître, il domine tout, et nous voyons souvent cela de très haut, de très loin. Mais il faut aussi apprendre à le connaître dans les choses de très près, dans les choses intimes de notre vie, dans des choses qui apparemment ne nous paraissent pas importantes, et pourtant, même les cheveux de notre tête sont comptés. Et voilà en quoi nous avons affaire à un bon et tendre maître, qui prend soin de notre avenir éternel, et en cela nous sommes émerveillés de cette perspective glorieuse qui est devant nous. Mais cette vie éternelle, elle est déjà dans nos cœurs, elle est déjà commencée, nous la vivons déjà avec lui sur la terre. Et c'est en cela que Pierre doit apprendre beaucoup de choses, comme nous aussi, nous devons apprendre beaucoup de choses. Pierre est un personnage plein de contrastes. Il est capable d'obéir en pleine tempête lorsque le Seigneur lui dit « Viens ». Et Pierre sort de la nacelle, marche sur les eaux, chose tout à fait époustouflante. Mais Pierre est capable de s'endormir dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il est à un des moments les plus forts du ministère de Jésus sur la terre. Pierre est capable de mentir, hélas. Mais nous, combien de fois n'avons-nous pas déjà menti? Et combien de fois le Seigneur n'a-t-il pas dû venir à notre rencontre pour parler à notre cœur, pour nous remettre debout, pour nous restaurer? L'exemple de Pierre est merveilleux à considérer. C'est notre vie qui est là devant nous.
C'est un peu surprenant quand on pense à Pierre qui marche sur les eaux, de prendre conscience peut-être que, en tout cas moi, une des choses qui restait souvent dans notre tête après cette circonstance, c'est ce que le Seigneur a dit, homme de petite foi. Et on regarde Pierre un peu comme quelqu'un qui vraiment c'est un homme de petite foi, quoi. Vous vous rendez compte? Il a eu peur. Il a eu peur du vent, de la tempête. Mais on pourrait se poser la question, qui d'entre nous serait sorti là du bateau? Qui c'est qui aurait mis les pieds puis qui aurait avancé? C'est curieux, personne ne lève les mains. Et en fait, Pierre nous donne quand même une immense leçon. Il a entendu le Seigneur lui dire « C'est moi ». Combien de fois dans ma vie le Seigneur m'a dit « Je suis là ». Et puis il a dit au Seigneur « Sur ta parole, dis-moi viens, sur ta parole je viendrai ». Et il a eu confiance dans celui qui lui a parlé. Et il a mis son pied sur l'eau. Mais pour savoir que l'eau allait le retenir, il fallait lever l'autre pied qui était dans la barque. Ce n'est pas le fruit d'une expérience, c'est le fruit de la confiance en ce que le Seigneur lui a dit. Et Pierre va avancer, et il lui faut à chaque pas se confier dans le Seigneur. Ce n'est pas le pas qu'il vient de faire qui lui donne la force du pas suivant. Mais il avance pas à pas vers le Seigneur. Et pour nous, c'est la même chose. La vie de foi, c'est pas à pas, c'est jour après jour. Ce n'est pas qu'est-ce que demain va être fait, non, c'est maintenant. Sur la parole du Seigneur et vers le Seigneur. Et puis, c'est jusqu'au bout. Pierre, il a avancé vers le Seigneur. À un moment donné, il a regardé autour. Peut-être qu'il n'y avait plus qu'un pas à faire. C'est possible. Là, peut-être parce que dès qu'il coule, le Seigneur était là pour lui tendre la main. Plus qu'un pas à faire jusqu'au bout. Et le Seigneur, lui, aussitôt qu'il lui parle, il lui dit « Seigneur, sauve-moi », c'est une parole de confiance. Il ne va pas se tromper, il ne va pas s'adresser à un autre. Il ne dit pas au bateau « Envoyez-moi une bouée ». Non, « Seigneur, sauve-moi ». Et le Seigneur aussitôt qui le prend. Combien je... Frères et sœurs, j'aime ça, de penser que dans ma petitesse, dans les moments où j'ai coulé, où je suis prêt à couler, il y a sa main qui est là. « Seigneur, sauve-moi !» Et sa main est là. Et ça, c'est une réalité. Et c'est aussi une réalité que le Seigneur puisse me dire, comme il a dit à Pierre, homme de petite foi. Mais, frères et sœurs, pour nous délivrer, qu'est-ce qu'il faut ? Une grande foi ? Peut-être. Mais même là, avec une petite foi, le Seigneur l'a délivré. Qui c'est qui a délivré ? La foi de Pierre ? Non, le Seigneur. Et ma foi s'appuie sur le grand Seigneur, mon Seigneur Jésus. C'est lui qui délivre. Alors, quel est l'important ? La grande foi, la petite foi ? Non, ce qui est important, c'est le Seigneur. Et après cette expérience, quel est le résultat ? Eh bien, le résultat, c'est véritablement tu es le Fils de Dieu. Un pas de plus dans la connaissance du Fils de Dieu. Non pas un pas de plus dans la certitude de ma grande foi, mais un pas de plus dans la connaissance du Fils de Dieu. Quelle belle expérience de Pierre.
Petite chose à propos de ce récit de Matthieu 14 qui a été lu. Il y a un doute chez les disciples, comme chez Pierre. Si c'est toi, commande-moi d'aller à toi sur les eaux. Quand nous avons un doute, il faut simplement parler au Seigneur. Le Seigneur appelle Pierre, il entend sa voix, il est sûr, il passe par-dessus le bord de la barque et va vers le Seigneur. Ensuite, il y a besoin de constance, Jean-Luc en a parlé, mais retenons ceci. S'il y a un doute quelconque, parlons au Seigneur, il donnera confirmation et nous pourrons engager quelque chose avec lui.
C'est très net dans le passage là ce que tu nous dis Jacques, hein, en parler au Seigneur, parce que on a eu tous, j'espère, dans nos vies des occasions d'une démarche de foi. Une circonstance n'était pas facile, le Seigneur nous donne de nous engager, comme Pierre. Puis au bout de quelque temps, il y a des difficultés, il y a du vent. On connaît ça. Et alors dans ce cas-là, il y a toujours des bonnes voies pour nous dire, « Mais tu vois, les difficultés du chemin, tu n'aurais pas dû. Ah, c'est pas le chemin du Seigneur, tu as été présomptueux. » Ça peut nous arriver, ça peut nous arriver. Mais il y a aussi l'épreuve de la foi. Et le Seigneur nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on croie qu'on est des spécialistes capables de tout, capables de marcher sur les eaux. Et il permet que justement ça ne se passe pas tout à fait bien, parce qu'il veut qu'on sache que c'est sa main qui est là pour nous tenir jusqu'au bout, pour donner sa délivrance. Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, parlons-en au Seigneur, vivons ce doute de foi à la limite, en étant rejetés sur le Seigneur. Il est là, à portée de main, c'est sa main qui va intervenir et qui va nous amener jusqu'au bout. Mais les difficultés dans le chemin, ce n'est pas une occasion d'être découragé, mais c'est l'occasion que la foi s'appuie à 100% sur le Seigneur.
Je voudrais peut-être apporter un élargissement ou peut-être un éclairage un petit peu nouveau sur nos entretiens. Nous parlons de Pierre avec cette idée de formation initiale pour le service. Et nous avons évoqué un certain nombre de circonstances dans sa vie qui peuvent nous être appliquées, bien évidemment, et je ne retire rien de tout ce qui vient d'être dit jusqu'à présent. Il y a peut-être un aspect qu'il faudrait souligner. On aurait peut-être pu le faire en introduction, mais bon, je n'ai pas eu cette opportunité. Pierre n'est pas un chrétien ordinaire. Il faut replacer ça dans son contexte. C'est une personnalité exceptionnelle qui va rencontrer des circonstances exceptionnelles, nous venons de le voir, et dans une période aussi exceptionnelle. C'est-à-dire que Pierre va être appelé apôtre. Nous ne sommes pas, nous, à être appelés apôtres. Il est dit dans l'Épître aux Éphésiens que la maison de Dieu va être édifiée sur le fondement des apôtres. On comprend donc que ce personnage, et les douze bien sûr, mais lui toujours en tête du collège des douze, va devoir être formé d'une façon particulière pour une tâche particulière qui, historiquement, ne se reproduira plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'apôtres. Il n'y aura plus ce fondement dont Christ est la maîtresse, Pierre du coin. On ne va pas refaire des fondements à chaque étage de l'édifice. Il y a un fondement qui est ce témoignage, cet enseignement de ces apôtres. Alors on comprend dès lors que Pierre et aussi les autres, par-delà leurs expériences, leurs personnalités, vont être formés pendant certains laps de temps, peut-être 3 ans, c'est le temps que mettra Paul aussi pour former ses disciples, aussi 3 ans, et va connaître ces situations où il va apprendre à, comme cela nous est dit, connaître la grandeur du Seigneur, sa fidélité, sa patience, et toutes ces petites expériences qu'il va accumuler, sa psychologie qu'on a essayé d'esquisser, nous avons quand même un certain nombre d'éléments dans la parole qui nous permettent, non pas de faire la biographie, mais de voir un peu qui est ce personnage, tout cela va lui être utile, et fortement utile, dans la seconde phase de sa mission qui va être celle de poser ses fondements. Alors je voulais simplement rappeler ces points qui me semblent importants.
Mais Pierre a aussi des moments que nous pouvons vivre tous. Et dans Luc 4, lorsque il y a cette grosse fièvre à la maison, voilà, on se rend compte que le Seigneur Jésus aime entrer dans la maison de ceux qu'il aime, et aujourd'hui encore. Le Seigneur Jésus n'est pas indifférent lorsqu'il y a une détresse, une souffrance. C'est moins spectaculaire que ce qu'on vient de lire, mais c'est le quotidien. Seigneur Jésus n'est pas indifférent à ce que nous vivons dans nos maisons, dans nos familles. Et nous avons dit tout à l'heure que c'est important de lui parler, de lui dire ses détresses ou dire ses inquiétudes, ses troubles, ses doutes. Et bien voilà, il y a une occasion ici. La belle-mère de Simon était prise d'une grosse fièvre. Et on le pria pour elle. Voilà, il y a des personnes qui... tout près de nous sont dans des situations peut-être qu'elles-mêmes ne peuvent pas prier, soit elles sont malades physiquement, soit spirituellement, soit moralement. Alors c'est toute une vie de famille, mais ce qui est important, c'est que le Seigneur Jésus vient là. Et n'oublions pas que ce qui s'est passé pour la famille de Pierre, cela aussi va se passer dans nos familles. Le Seigneur Jésus aime qu'on lui parle de nos soucis les plus simples, les plus intimes, et le Seigneur Jésus aime nous délivrer.
La prière de Pierre sur la mer en furie est une des plus courtes que la parole contienne. « Seigneur, sauve-moi !» Et instantanément, le Seigneur intervient. Il est dans la détresse, il est dans le doute, il est épouvanté. Le Seigneur le calme, le Seigneur le rassure. Dans sa propre maison, il parle simplement au Seigneur de la maladie de sa belle-mère. Il sait, il réalise que seul le Seigneur peut agir, et le Seigneur va agir. Mais il y a des circonstances aussi où on n'est même plus capable de s'adresser au Seigneur. Dans le cas de la résurrection de la fille de Jaïrus, Jaïrus prend les initiatives. Il va à la rencontre du maître, il lui parle de sa fille. Mais la maman, elle est épouvantée. La maman, elle est cloîtrée dans un silence absolu. On ne la voit pas agir. Elle fait confiance. Et nous aussi, dans certaines de nos circonstances, il peut nous arriver d'être bloqués dans notre relation avec le Maître, parce que nous sommes dépassés par telle tempête, par tel vent tourbillonnant. Mais là encore, la parole de Dieu est pleine de promesses. Et en Romains 8, nous pouvons lire au verset 26e, « De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. » Voilà encore une parole encourageante, et voilà en quoi nous pouvons faire confiance à celui qui se met à notre service. Nous le verrons plus tard, le Seigneur lui-même lavera les pieds de ses disciples. Faisons confiance aussi à cette aide extraordinaire qu'il met à notre disposition, cet esprit qui intercède. Même lorsque nous ne sommes plus capables que d'exprimer un soupir inexprimable, lui il sait, lui il voit, lui il intervient.
De Pierre à la fièvre. Je crois qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il y a beaucoup de fièvre. Une des caractéristiques de ce que cette belle-mère ne peut plus faire, ayant la fièvre, c'est qu'elle ne peut plus servir. Et dans le monde dans lequel on est, avec la fièvre qui caractérise ce monde, peut-être que beaucoup d'entre nous sont pris dans l'activité professionnelle de tous côtés ou dans des activités multiples, de telle sorte que cette fièvre nous empêche de servir le Seigneur simplement. Et là, nous avons besoin de l'aide des uns et des autres. On le pria pour elle. Alors, peut-être qu'ici, il y a aussi des frères et sœurs âgés qui se disent « Je ne peux plus être utile. Oh, s'il vous plaît, priez pour nous. Priez pour nous, pour qu'on soit délivré, guéri de cette fièvre, pour pouvoir servir le service que le Seigneur nous donne. » Et le Seigneur a répondu, là. Dans l'Évangile selon Marc, il prend la belle-mère de Pierre, il l'a prise par la main. On a vu que le Seigneur a pris Pierre par la main pour le sortir de l'eau. Il a pris ce contact du Seigneur avec la belle-mère de Pierre qui la relève, l'apaise, la guérit et lui donne de servir de nouveau. De même que quand il va s'approcher de la fille de Jaïrus, dans l'évangile de Marc aussi, il la prend par la main et il lui donne la vie. Vous voyez, c'est toujours ce contact personnel, vécu, réel avec le Seigneur Jésus qui délivre, qui ranime, qui apaise, qui donne la vie. Mais il y a toujours, dans chaque étape, il y a ce cri vers le Seigneur, soit Pierre directement, soit Jaïrus pour sa fille, soit Pierre et sa famille pour la belle-mère. Une demande, une réponse, une main qui se tend, la main du Seigneur pour délivrer.
Le frère Wollstone fait une remarque à propos de Madame Simon-Pierre. Il dit, Madame Simon-Pierre, finalement, elle voit son mari abandonner le travail pour suivre ce Jésus. Et elle va bientôt perdre sa maman. Mais voilà, ce Jésus entre dans cette maison accueillante, une maison où on accueille, une maison où on loge une maman. Et puis, guérit la maman. Quelle consolation pour Madame Simon-Pierre.
Sur la fièvre, je ne sais pas si elle est juste, mais elle est un peu siron. Il n'est pas dit que le Seigneur Jésus a guéri la belle-mère de Pierre. La fièvre, c'est pas une maladie. C'est, si j'ai bien compris, c'est une réaction de l'organisme à une attaque extérieure. Alors peut-être que nous, on réagit mal aux attaques extérieures et on ne peut pas servir. Alors peut-être qu'il ne faut pas... Le Seigneur n'enlève pas l'attaque extérieure, il veut guérir la fièvre, il veut guérir notre façon de réagir aux attaques extérieures.
Il y a pour ceux qui entourent les circonstances dans le cadre du récit de la fille de Jaïrus, une limite. Humainement, on pense que Dieu peut intervenir jusqu'à une certaine limite, et puis après, c'est plus la peine. Bon, c'est pas le seul récit qu'on ait à cet égard, mais celui-ci est très explicite au verset 49 de Luc 8. Ta fille est morte, ne tourmente plus le maître. Autrement dit, c'est fini, ça n'est pas la peine d'intervenir. Mais le Seigneur entend, répond à la foi, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Il arrive à la maison et il prend avec lui, entre autres, Pierre. C'est celui qui peut comprendre, qui a besoin de comprendre, qui, avec Jean et Jacques, a besoin de voir. Et il entre là, il va assister, connaître les consolations, voir la puissance du Seigneur, entendre les réactions de ceux qui disent en riant « Elle est morte, c'est pas la peine !» Et le Seigneur intervient. La fille de Jaïrus est ressuscitée, elle est guérie. Ses parents sont hors d'eux. Voilà, Pierre est celui qui assiste à la scène. Nous retenons qu'il n'y a pas de limite pour le Seigneur. On peut quelquefois avoir des pressions extérieures qui nous disent « ça n'est pas la peine ». On a entendu il y a quelque temps à propos d'intercessions sur des relativement à des circonstances difficiles « c'est pas la peine, si le Seigneur avait dû répondre, il aurait répondu ». Voilà, on a, comme on l'a vu tout à l'heure, des circonstances qui viennent de l'extérieur pour éprouver la foi et... On fait comme si Dieu avait une limite. Pierre entend ces choses-là. Il apprend aussi qu'il n'y a pas de limite pour le Seigneur. Non seulement une fièvre qui quitte sa belle-mère, mais encore une jeune fille qui est là, morte, hein, et que le Seigneur est en mesure de ressusciter.
Chose sûre pour Jaïrus. Il arrive, on vient de lui dire « ne tourmente plus le maître ». Mais il y a quelque chose, il y a deux choses qui vont être pour lui à ce moment-là. Dans cette seconde-là, sa fille est encore sur son lit de mort. Le maître est là. Et dans ce sens-là, il a déjà répondu. Le maître est là. Et la deuxième chose... Le maître lui parle, et c'est une merveilleuse réponse. Ne crains pas, crois seulement. Dans nos vies, il peut y avoir des moments où on coule. On coule littéralement. Et le maître nous fait réaliser sa présence. Il est là. C'est presque physique, si j'ose dire. Il est là. Et il parle. Alors vous allez me dire, mais comment il parle ? Oui. Il va nous rappeler ça, ne crains pas, crois seulement, mais qu'est-ce qu'il nous dit dans Hébreux 13 ? En sorte, il nous est cité un passage de Josué, et dans lequel il est dit, qui lui-même a dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Bien, dans la parole de Dieu, dans ce livre, j'ai les paroles du Seigneur, qui lui-même a dit, et les promesses du Seigneur. Est-ce que je vais m'approprier cela ? En sorte que plein de confiance, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, nous disions, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai pas que me fera l'homme. La présence du Seigneur est sa parole.
Nous sommes obligés d'avancer un petit peu dans cette étude. Et c'est vrai que dans ce paragraphe qui est intitulé « Découvrir la grandeur et la puissance du Seigneur », on a bien découvert que c'est la foi est engagée. Et la foi, c'est vraiment faire absolument confiance dans un Seigneur, dans quelqu'un qui peut, qui est fidèle, on a dit tout à l'heure, mais qui est puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Mais les circonstances vécues, là, sont peut-être assimilées à des expériences que nous pourrions vivre. Et est-ce que c'est seulement les expériences qu'il nous faut pour grandir, pour être formé ? Et dans ce que nous allons pouvoir regarder pendant 25 minutes, c'est autre chose que de découvrir la puissance du Seigneur, mais c'est le connaître lui. Qui est-il vraiment celui à qui je dois faire confiance ou je vais faire confiance? Qui est-il? Et alors, les textes de Matthieu 16, verset 13, jusqu'à Matthieu 17, verset 8, sont des textes qui vont nous faire découvrir qui est le Seigneur Jésus. Dans le premier texte, c'était, voilà, nous avons trouvé le Messie, le Christ. Quelqu'un de puissant, mais qui est-il vraiment?
Regardons le travail chez Pierre, à partir de l'indication de Jean 1, qui vient d'être rappelée. Nous avons trouvé le Messie, le Christ, et ici, cette affirmation, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà une parole qu'a entendue Pierre. Pierre est venu voir. Contrairement à son habitude, il n'a rien dit. Et puis, cette pensée l'a préoccupé. Il a vécu certaines circonstances avec le Seigneur et il a dit oui. Il est unique, c'est lui, le Christ. Quand nous entendons quelquefois parler du Seigneur, si nous voulons vraiment pouvoir dire nous-mêmes « Oui, c'est lui », laissons-le nous faire vivre quelques expériences, vivons les expériences avec lui, en regardant bien ce qu'il fait, ce qu'il dit, en lisant par exemple dans la Bible quand il est question de lui, en traversant certaines circonstances où on entend dire « Tiens, c'est la main de Dieu, tiens, le Seigneur a répondu ». Ensuite, nous pourrons dire personnellement, c'est lui, et nous aurons une relation toute différente avec lui.
Peut-être je reviendrai un instant en arrière. On s'est adressé aux jeunes, et là j'aimerais m'adresser aux personnes âgées, celles qui sont peut-être fatiguées, lassées, et qui se disent « Où est mon service ?» en rapport avec la belle-mère de Pierre. Simplement un rappel concernant les Lévites. On peut regarder simplement, mais le service actif des Lévites se situait de 30 à 50 ans. De 25 à 30 ans, c'était les années de formation. De 30 à 50 ans, c'était le service actif, et c'est en progrès par rapport à la législation actuelle. Et puis, au-delà de 50 ans, alors on pouvait dire qu'ils étaient inutiles. Non. Lisons ce qui nous est dit dans Nombre 8, simplement un verset. Il y a Nombre 4 aussi, mais Nombre 8, l'Éternel parla à Moïse, disant, c'est ici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, le Lévite entrera en service pour être employé à la tente d'assignation. Depuis l'âge de 50 ans, il se retirera du labeur du service, ce qui était un âge assez avancé à l'époque, et ne servira plus. Mais c'est la suite qui est importante. Et il s'emploiera avec ses frères à la tente d'assignation pour garder ce qui doit être gardé. Mais il ne fera pas de service. Tu feras ainsi à l'égard des Lévites, touchant leur charge. Le mot important, c'est garder. Nous avons des frères, des sœurs âgés, qui sont peut-être fatigués, lassés, qui ne voient plus tellement peut-être leur ministère. Ils en ont un. C'est celui de garder. Garder le bon dépôt, prier, conseiller, soutenir ceux qui sont peut-être en première ligne, ceux qui affrontent l'ennemi de face. Et sûrement, leur ministère de prière, de conseil, est en grande bénédiction et c'est un encouragement pour eux que je voudrais donner en ces instants. Et puis, revenons sur ce Messie dont on vient de parler. Nous avons trouvé le Messie. C'est le but de Jean. Le but de l'évangile de Jean, c'est de montrer que le Fils de Dieu est le Messie. Et il y a trois affirmations qui sont